Chapitre 78. Césarée, Israël, dimanche 13 décembre 1981. Nathalie arrêta fréquemment sa Fiat sur la route de Haïfa pour profiter du paysage et du soleil hivernal. Elle ne savait pas quand elle reviendrait par ici. Sur la route côtière, elle rencontra un convoi militaire qui la retarda de quelques minutes, mais lorsqu'elle tourna pour se diriger vers le kibbutz Mahagan Michael, elle se retrouva toute seule et remonta à vive allure la route qui serpentait entre les bosquets de caroubiers. Comme à son habitude, Saul l'attendait au pied des rochers, près du portail de la propriété Eshkol, et il descendit lui ouvrir. Elle quitta son siège d'un bond pour se précipiter vers lui, le serra dans ses bras et recula d'un pas pour l'examiner.
« Tu as l'air en pleine forme ?»
dit-elle. C'était presque exact. Il semblait rétabli. Il n'avait jamais repris ses kilos perdus. Sa main et son poignet gauche portaient encore des bandages datant de sa dernière opération, mais sa barbe était aussi blanche et fournie que celle d'un patriarche. La sempiternelle pâleur de son visage avait laissé place à un hâle cuivré, et les cheveux qui poussaient encore sur son crâne tombaient en boucle sur ses épaules. Saul sourit et ajusta ses lunettes cerclées d'écailles, tout comme Nathalie s'y était attendue. Tout comme il le faisait chaque fois qu'il se sentait gêné.
Tu as l'air en forme, toi aussi.
Il referma le portail et fit un signe au jeune Sabra qui montait la garde près de la clôture.
Montons à la maison. Le dîner est presque prêt.
Nathalie quitta la route des yeux pour regarder la main bandée de son passager.
Comment ça va?
Hein?
Oh, ça va.
Saul ajusta ses lunettes et regarda ses bandages comme s'il les voyait pour la première fois.
On pourrait croire qu'un pouce est indispensable, mais une fois qu'on en est privé, on se rend compte qu'on s'en passe sans problème.
Il lui sourit. À condition que rien n'arrive à l'autre.
C'est quand même bizarre.
Quoi donc?
Deux balles dans le corps, une pneumonie, une commotion cérébrale, trois côtes cassées, et assez plaies de bosses pour remplir le quota annuel d'une équipe de foot.
Les Juifs ont la peau dure.
Non, ce n'est pas ce que je veux dire.
Nathalie gara la Fiat près de la maison. En dépit de la gravité de tes autres blessures, c'est la morsure de cette femme qui a failli te tuer, ou du moins te faire perdre un bras.
Les morsures humaines s'infectent très fréquemment, dit Saul en lui ouvrant la portière.
Miss Sewell n'était pas humaine.
Non.
Saul ajusta ses lunettes.
Je suppose qu'elle avait cessé de l'être à ce moment-là.
Saul avait préparé un dîner délicieux à base de mouton et de pain frais. Ils parlèrent de tout et de rien durant le repas. Les cours que Saul donnait à l'université de Haïfa, le dernier reportage photographique de Nathalie pour le compte du Jerusalem Post, le temps qu'il faisait. Après le fromage et les fruits, Nathalie eut envie de boire un café sur l'aqueduc. Saul emplit une bouteille thermos pendant qu'elle allait enfiler un pull au vert dans sa chambre. Il faisait souvent frais sur la côte en cette saison. Ils descendirent lentement la colline et longèrent l'orangeraie, s'émerveillant de la douce lumière dorée et s'efforçant d'ignorer les deux jeunes sabras qui les suivaient à une distance respectueuse, lousie en bandoulière.
J'ai été navré d'apprendre la mort de David, dit Nathalie alors qu'ils arrivaient sur les dunes.
Devant eux, la Méditerranée se parait de nuances cuivrées. Saul haussa les épaules.
Il a eu une vie bien remplie.
Sa troisième crise a été foudroyante et il n'a pas souffert.
Je regrette d'avoir raté l'enterrement. J'ai passé une journée entière à l'aéroport d'Athènes, mais tous les avions étaient pleins.
Tu ne l'as pas raté. J'ai souvent pensé à toi. D'un geste, Saul ordonna aux gardes du corps de rester où ils étaient, puis il se dirigea vers l'aqueduc. La lumière horizontale faisait de leurs ombres des géants arpentant le sable crénelé. Ils s'accordèrent une pause à mi-chemin et Nathalie se prit à bras-le-corps. Le vent était glacial. On apercevait au levant trois étoiles et un croissant de lune.
« Tu es toujours décidé à partir demain ?
À retourner là-bas ? »
Oui.
Départ de Ben-Gourion à 11h30. Je te conduirai là-bas. Je laisserai la voiture chez Sheila et je demanderai à un de ses fils de me ramener. Ça me ferait plaisir.
Nathalie sourit. Saul servit le café et lui tendit un gobelet en plastique. Des volutes de vapeur montaient dans l'air glacé.
Tu n'as pas peur ? Dit-il.
De quoi ?
De retourner aux États-Unis ou d'apprendre qu'il en existe d'autres ? Demanda-t-elle en buvant une gorgée de nectar turc.
De retourner là-bas.
Si. Saul hocha la tête. Quelques voitures roulaient sur la route côtière, l'éclat de leurs phares se perdant dans la lueur du crépuscule. Un peu plus au nord rougeoyaient les murailles de la cité des croisés. Le mont Carmel était à peine visible, drapé dans une aura d'un violet si riche que Nathalie aurait cru à un trucage si elle l'avait vu sur une photo.
« Enfin, je ne sais pas, » reprit-elle. « Je vais essayer de m'y réhabituer. L'Amérique était déjà un pays terrifiant avant tout ça. Mais c'est chez moi, tu comprends ?»«
Oui. »«
Tu n'as jamais eu envie de rentrer chez toi ?»«
Aux États-Unis, je veux dire. »
Saul opina et s'assit sur une large pierre. Les crevasses inaccessibles au soleil étaient emplies de givre.
Tout le temps. Mais il y a tant de choses à faire ici. Je ne reviens toujours pas de la rapidité avec laquelle le Mossad a cru toute l'histoire.
Saul sourit. Notre histoire a toujours été marquée du sceau de la paranoïa. Je pense que nos révélations étaient conformes à leurs préjugés. Il acheva son café et les resservit tous les deux. En outre, ils avaient sur les bras quantité de données inexplicables. À présent, ils ont une trame où fixer leur fil. Une trame bizarre, bien sûr, mais c'est mieux que rien. Nathalie indiqua la mer qui s'assombrissait au nord.
« Tu crois qu'ils retrouveront les autres ?»«
Les mystérieux contacts de l'Oberst ?»«
Peut-être. » »«
À mon avis, ce sont des gens auxquels ils ont déjà eu affaire. »
Le regard de Nathalie s'assombrit. « Je pense encore à celui qui manquait à l'appel dans la maison. »
Howard, le rouquin, le père de Justin.
Oui.
Nathalie frissonna lorsque le soleil s'enfonça sous l'horizon, signalant la venue du vent.
Poisson-chat vous a dit par radio qu'il avait endormi Howard, en supposant que c'était bien lui qui t'avait suivi. Quand Mélanie a envoyé un de ses zombies, probablement que l'ait assassiné Poisson-chat, il a presque sûrement récupéré Howard au passage. Peut-être était-il encore inconscient quand la maison a brûlé. Peut-être que c'était lui qui t'attendait dans une des pièces de l'étage.
Peut-être,
dit Nathalie en serrant le gobelet pour se réchauffer les mains. À moins que Mélanie ne l'ait enterré quelque part le croyant mort. Ça expliquerait pourquoi le nombre de cadavres recensés dans les journaux ne colle pas. Elle contempla les étoiles qui apparaissaient dans le ciel.
Tu sais que c'est un anniversaire aujourd'hui ?
Ça fait un an que...
ton père est mort, dit-il en l'aidant à se lever.
Ils rebroussèrent chemin le long de l'aqueduc éclairé par le crépuscule.
Tu ne m'avais pas dit que tu avais reçu une lettre de Jackson ?
Le visage de Nathalie s'éclaircit.
Une longue lettre. Il est retourné à Germantown. En fait, c'est lui le nouveau directeur de Community House, mais il s'est débarrassé de cette vieille bicoque. Il a dit au Saul Brickyard de se trouver un autre QG. Il pouvait se le permettre, c'est encore un membre de la bande, je pense. Et il a ouvert une dizaine d'antennes d'assistance le long de Germantown Avenue. Clinique gratuite et tout le reste.
Est-ce qu'il t'a dit ce que devenait Marvin ?
Oui.
Jackson l'a plus ou moins adopté, je pense. Il m'a dit que Marvin faisait de nets progrès. Il a atteint le niveau mental d'un enfant de 4 ans. Un enfant très brillant, à en croire Jackson.
Tu comptes aller le voir ?
Nathalie ajusta son pull-over.
Peut-être.
Probablement, oui.
Ils descendirent précautionneusement du contrefort friable de l'antique ouvrage d'art et se retournèrent pour contempler le paysage. Les dunes incolores ressemblaient à un océan figé léchant les ruines romaines.
Tu comptes faire d'autres reportages photographiques avant de reprendre tes études ?
Oui.
Le Jérusalem Post m'a demandé d'en faire un sur le déclin des synagogues américaines. Et je crois que je commencerai par Philadelphie.
Saul fit un signe aux deux sabras qui les attendaient à l'ombre d'un pilier. L'un d'eux avait allumé une cigarette qui luisait comme un œil rouge dans la pénombre.
Les photos que tu as consacrées aux prolétaires arabes de Tel Aviv étaient excellentes.
Regardons la réalité en face, dit Nathalie avec une nuance de défi dans la voix.
Les Israéliens les traitent comme des nègres.
Oui.
Ils restèrent plusieurs minutes en bas de la colline, silencieux, frigorifiés, mais hésitant à regagner la maison où les attendaient chaleur, lumière, banalité et sommeil.
Soudain, Nathalie se blottit entre les bras de Saul, enfouit la tête dans sa veste, sentit sa barbe lui caresser les cheveux.
« Oh, Saul !»
sanglota-t'elle. Il lui tapota maladroitement le dos de sa main bandée, heureux de laisser cet instant se figer pour l'éternité, acceptant sa tristesse comme une source de joie. Il entendit le vent caresser doucement le sable, poursuivant ses efforts incessants pour enfouir toutes les œuvres de l'homme, rêvées ou accomplies.
Nathalie s'écarta un peu, chercha un Kleenex dans sa poche et se moucha.
« Merde, je suis navré, Saul. J'étais venu te dire shalom, mais je crois que je suis pas prête. »
Saul ajusta ses lunettes. « N'oublie pas que shalom ne veut pas dire adieu, ni bonjour. Ça veut seulement dire paix. »
« Shalom, »
dit Nathalie en se blottissant à nouveau dans ses bras pour se protéger du vent glacial.
Shalom et l'Araïm.
Saul lui caressa les cheveux de la joue et regarda le sable tourbillonner sur l'étroite route.
À la vie.